Merci Fanny. Merci Eric-Sébastien. Peut-être sur la part de transmission, avant d'attaquer sur le volume à proprement parler, le rapport maître-élève, il est ici singulier par rapport à ce que vous pouvez éventuellement vivre ou dans d'autres types de binômes. Il y a deux raisons à ça essentielles. D'abord, je suis arrivé à l'atelier en tant qu'artiste. Je n'avais pas un parcours, un bagage scolaire dans les métiers d'art. Donc j'arrivais avec un projet, et un projet qui portait sur la technique elle-même. Et c'est ce qui a permis, avec l'intelligence du maître, de se remettre en question son propre savoir-faire et de repartir à zéro avec son élève. Pour le dire différemment, souvent lorsqu'on parle de l'atelier, on parle du laboratoire. Ça résume assez bien la philosophie à laquelle faisait référence Fanny, c'est-à-dire c'est quelque chose de bouillonnant. C'est continuellement qu'on s'interroge sur la technique, sur la chimie de la technique, sur la méthode, sur l'histoire de la technique, et qu'on en fait un champ d'expérimentation fondamentalement contemporain. On est sur une technique du début du 19e, la part de machinerie est aussi datée de cette période-là, la chimie a tendance à peu à peu disparaître, justement parce qu'elle est aussi de cette période, de toute cette révolution des procédés photomécaniques. Mais il n'en reste pas moins que le procédé en lui-même a voix au chapitre aujourd'hui. C'est en ce sens que c'est intéressant de l'interroger en parallèle de la transmission d'un savoir-faire, en parallèle de la pérennisation d'un geste qui se perd. Il n'y a qu'une dizaine d'ateliers, une vingtaine dans le monde qui pratiquent l'héliogravure. C'est une technique qui n'est plus enseignée. Donc la seule façon d'avoir accès au geste, c'est ce rapport privilégié maître-élève. Voilà. Donc sur la transmission, il y a, alors chez nous peut-être cette singularité-là, mais avant tout, en amont du dispositif élève-maître d'art, et puis durant le dispositif maître d'art, une vraie communion, une vraie communauté autour d'une technique. C'est ce qui fait peut-être aussi la spécificité du duo. Sur la part de volume en lui-même, plus techniquement, peut-être assez complexe de se rendre compte, vous avez déjà vu l'exposition, vous allez peut-être la voir, l'héliogravure, vous avez vu défiler des matrices tout à l'heure, c'est fondamentalement, Fanny disait, destiné à l'estampe. La matrice, pendant longtemps, n'était même pas considérée. C'est-à-dire que ça restait un objet d'atelier. Une fois qu'effectivement la série limitée avait été imprimée, la matrice disparaissait. Donc on avait, alors que l'héliogravure est un rapport même à la matière cuivre, la matière n'était plus présente au final. On était quasiment... D'ailleurs, l'Institut national des métiers d'art continue à classer l'héliogravure comme impression en héliogravure. Et on hérite encore de ce bagage-là. Or, on peut s'interroger sur la nécessité de travailler la matrice elle-même, travailler le cuivre, et d'ouvrir des champs complètement autres. Et à partir du moment où on se libère de la nécessité d'imprimer, c'est-à-dire qu'on se libère de la presse-taille douce, donc du plateau et du rouleau, qu'on est peu obligé de passer à plat sur du papier chiffon pour tirer les estampes. On peut complètement révolutionner la technique. Il suffit de s'imaginer pouvoir graver dans l'absolu n'importe quelle forme de cuivre à la base. Le squelette auquel faisait référence Fanny avec engouement, c'est un projet de 3 ans en définitive. Le travail a amorcé en 2014, grâce à l'époque à l'accompagnement et toujours aujourd'hui de la Fondation Banque Populaire, qui m'accompagne sur ce champ d'expérimentation du volume, en 3 phases. La première phase était de travailler, vous l'avez vu défiler tout à l'heure, des volumes entre guillemets simples, c'est-à-dire des solides de Platon, parce que quand bien même la technique était révolutionnée dans le geste, le savoir-faire n'était pas complètement étranger à celui que l'on connaît. C'est-à-dire qu'il suffisait d'héliograver face après face un volume monté à l'origine. La deuxième phase dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, et en définitive, le reliquaire en est déjà l'antichambre, puisqu'il s'agit d'un demi-cylindre, la deuxième phase est de pouvoir héliograver non plus des formes simples, mais des formes parfaites, en l'état la sphère. Et là, même en vous passant les détails, vous pouvez vraiment avoir un aperçu de la complexité du challenge, puisque nous ne sommes absolument plus sur les mêmes techniques d'insolation, nous ne sommes plus sur les mêmes gélatines, nous ne sommes absolument plus sur les mêmes gestes, nous n'avons plus les mêmes morsures. Tout est complètement révolutionné. Concrètement, ça suppose techniquement de réaménager l'atelier. Donc, le savoir-faire est là, mais le laboratoire est pleinement convoqué à cet endroit-là. Et donc, entre les solides, le cube exemple, et la sphère à laquelle nous nous attaquons cette année, le demi-cylindre que vous pouvez voir à l'exposition. Là où c'est intéressant, c'est que vous voyez ici aussi la capacité à jouer avec la matière, puisqu'on ancre le cuivre. Donc on peut aussi continuer à garder des gestes que l'on a dans l'impression, quand même celle-ci n'est plus convoquée traditionnellement, puisque l'on va travailler le rapport à la matière cuivre pour réécrire finalement le motif et continuer à, là encore, traduire des gestes traditionnels, mais dans une écriture contemporaine. Et puis la dernière phase était, pour revenir sur cet endroit de volume simplement rapidement, de pouvoir héliograver en se basant sur des solides simples, des formes parfaites, dans l'absolu n'importe quel type de forme, puisqu'on pouvait jouer sur les arêtes, on n'était pas limité par les courbes, etc. L'objectif est de vous parler rapidement de l'œuvre en elle-même qui est présentée à l'exposition, puisque c'est là où on rejoint l'alguier dont vous faisiez état dans la bibliothèque des arts décoratifs. À l'invitation d'Éric Sébastien, lorsqu'il m'a parlé de l'alguier, lorsqu'il m'a décrit son rôle un petit peu pivot, ou en tout cas à la genèse de l'exposition, me suis interrogé sur l'idée d'un herbier contemporain. Il se trouve que, comme beaucoup d'artisans, alors chez moi ça se traduit de manière un peu singulière, mais je suis chercheur et artisan. Et je suis plusieurs mois par an, 3 à 4 mois par an en Arctique, pour me consacrer à une étude du milieu, notamment de la flore. C'est dans ce cadre-là que j'essaie, au retour à l'atelier, de donner forme à des échantillons, lesquels sont de l'ordre du motif, de la photographie. L'idée de l'herbier était là de ne pas avoir la vanité d'emprisonner un échantillon, un prélèvement. Finalement, si on souhaite le voir, on peut aller déjà dans des institutions qui ont en plus, dans les règles, et prélevé et préservé l'espèce. Finalement, vu que l'héliovolume en l'état et la revisite de l'héliogravure qui est la nôtre nous permet de passer de l'estampe photographique à la sculpture photographique, l'idée était de véritablement sculpter, ou en tout cas proposer une sculpture, une occurrence sculptée de cette variété-là de lichen, qui est une variété qui joue un rôle un petit peu particulier dans la biosphère, dans l'écosystème des régions nordiques. Esthétiquement, il a d'ailleurs beaucoup de parenté avec les algues que vous nous montriez tout à l'heure, qui s'appelle le Cladonia stellaris. C'est un lichen qui sert de lit de couche à des espèces entières, les espèces de caribou par exemple. Le bouleversement climatique fait que dans certaines régions d'Arctique, on n'a pas une accélération de la fonte, mais la fonte n'a pas lieu dans les 2 semaines, 2 semaines et demie où elle devrait normalement avoir lieu. Lequel lichen, du coup, n'affleure plus en surface, et par espèce entière, par population entière, caribou par exemple, font fausse couche, et l'espèce ne se renouvelle pas. Donc au-delà de l'étude technologique d'un milieu, il y avait évidemment le parallèle avec l'héliogravure elle-même, et plus largement avec une forme d'archive de la disparition de ces zones-ci. Le cuir de Russie que vous apercevez sur le côté, qui sert à composer les anses de l'objet, mais qui par ailleurs est aussi, participe de la cérémonie d'ouverture, si vous voulez, de la boîte chasse, du reliquaire, a été imprimé, là encore, en estampe traditionnelle. Donc de la même manière, on revisite le geste, qui est celui, pour le coup, plus classique, d'une matrice à plat, ancrée, passée sous presse taille douce, et imprimée sur un support, si ce n'est que là, on travaille, on avait travaillé sur cette pièce avec Élise Bouet-Ménard, qui est spécialiste de ce cuir-là, a une forme de traduction. Alors, il y a quelques endroits de complexité, parce qu'on n'est pas du tout sur le même support, évidemment, mais enfin, a une forme de traduction de l'estampe sur d'autres matériaux.
Effectivement, vous pourrez leur poser quelques questions tout à l'heure. Donc, en vous précisant que cette pièce est dans l'exposition « L'empreinte du geste ».